Bonjour à tous. Ils ont été arrêtés en Iran en juin dernier et depuis on a très peu d'informations sur eux. Qui sont donc Roland Marchal et Fariba Delka, les deux chercheurs français qui sont détenus dans une prison de Téhéran, et dans quelles conditions vivent-ils aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir avec vous, Philippe Reltien. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Elvire Beraïa Lazarus. Bonjour également.
Bonjour.
Alors pour Envoyé spécial sur France 2, vous avez réalisé une enquête sur l'isolation des combles à 1 euro, un système vertueux dans son principe, mais qui débouche, on va le voir, sur des fraudes et des malfaçons.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
La une ce matin, un chercheur français détenu en Iran depuis 3 mois. Roland Marchal a été arrêté par les gardiens de la Révolution. Sa détention pèse sur les relations entre la France et l'Iran. Explication dans un instant.
Voilà, ça c'était Florence Paracuellos en octobre dernier dans le journal de 8h sur France Inter. On y apprend qu'un chercheur français, Roland Marchal, a été arrêté et incarcéré en Iran, ainsi qu'une de ses collègues et amies, Fariba Abdelka. Depuis, personne ne sait en fait vraiment ce qui se passe en coulisses. Alors à Secret d'Info, on a voulu comprendre qui ils sont, comment ils vivent, ce qu'ils risquent aussi. Mais peut-être la première des choses à faire, Philippe Reltien, c'est de parler un peu du parcours de Roland Marchal.
Alors pour commencer, il faut l'imaginer dans les réunions militantes de la fin des années 70 sur le campus de l'université de Strasbourg. C'est l'époque de la révolution islamique en Iran, de la crise des otages à l'ambassade américaine à Téhéran, et c'est là d'ailleurs qu'il croise Fariba Adelka pour la première fois. Lui est alors en maths, il va ensuite à l'école des hautes études en sciences sociales, et c'est là où il deviendra sociologue, comme nous l'explique Jean-François Bayard, un ami de Roland Marchal, qui a dirigé le CERI, le centre de recherche commun au CNRS et à Sciences Po Paris.
Lorsqu'il était à Strasbourg, il était très engagé politiquement dans les réseaux du CDTIM, donc solidarité avec le tiers-monde, lutte anti-impérialiste, etc. Et en quelque sorte, les sciences sociales l'ont piqué et il est rentré dans ce métier. Il a entamé une thèse, je crains qu'il ne l'ait jamais finie, sur le Soudan et l'Érythrée, mais dont il est resté un des très très grands spécialistes. Et puis, au tout début des années 1990, lorsque la guerre civile en Somalie a éclaté, il s'est intéressé à cette région et il est devenu le spécialiste incontesté de la Somalie à l'échelle internationale.
C'est donc un expert de la Somalie, mais pas seulement.
Non, ses connaissances vont bien au-delà. Il s'est aussi intéressé aux États du Golfe Persique, à la République centrafricaine. Il a également travaillé sur l'ex-président du Soudan, Omar el-Béchir. En fait, c'est tout un écosystème africain qu'il a étudié, nous dit la chercheuse Marielle Debeau, qui a beaucoup travaillé avec lui.
Roland, qui travaillait déjà sur le Soudan et le Darfour, a compris, peut-être bien avant d'autres, qu'il fallait aussi regarder ce qui se passait au Tchad pour comprendre la crise du Darfour. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire des recherches sur le Tchad. Et ce que j'ai toujours trouvé fascinant quand je discutais avec lui du Tchad et du Soudan, ou même de la Centrafrique, c'est sa connaissance très fine des élites politiques, des élites économiques, et sa capacité à comprendre avant les autres ce qui allait se jouer sur ces terrains.
Donc c'est ce qu'on appelle une sommité dans son domaine, mais c'est aussi un chercheur assez atypique.
Oui, quand vous dites atypique, on pourrait même ajouter iconoclaste. Pour conduire ses recherches, il prend parfois des chemins détournés au risque d'étonner ses confrères. Écoutez par exemple ce que raconte Richard Banegas, un autre chercheur du CERI, au sujet d'un article qu'il avait publié dans la revue qui s'appelle « Politique africaine ».
Je me souviens qu'il avait lancé avec Christine Messian un numéro sur les premières dames en Afrique. Alors tout le monde rigolait, on disait oh, ça c'est un roman de gare. Et puis en fait, à travers ce petit sujet a priori mondain, ils avaient fait aussi l'éclairage. Ils avaient jeté l'éclairage sur tout un tas de pratiques corruptives et tout, des régimes notamment d'Afrique centrale, etc. Ou un autre qu'on avait fait sur la politique française en Afrique. On avait mis avec Glaise, notre ami Glaise, dessinateur au Burkina, nous avait envoyé un dessin assez drôle du fameux tirailleur Banania, vous savez, intitulé « Il n'y a plus bon ». C'était Chirac à la fin de son mandat et avant celui de Sarkozy, qui était un numéro aussi où c'est énoncé une critique féroce, effectivement, de la politique africaine de la France au sud du Sahara.
Oui, il n'hésite donc pas à dénoncer les potentats africains. Maintenant, il y a un autre aspect de sa personnalité, Philippe, c'est qu'il se fiche aussi parfois des procédures, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques mésaventures.
En effet, Roland Marchal est quelqu'un de très direct qui ne s'embarrasse pas de protocole. Je vous donne un exemple. Il faut savoir qu'un chercheur au CNRS doit emporter avec lui un ordre de mission signé lorsqu'il se rend dans un pays africain. Or, lui est allé une fois en République centrafricaine sans cet ordre de mission. Et ça s'est pas bien passé du tout, se souvient son ami Jean-François Bayard.
Il a été arrêté par les autorités centrafricaines et naturellement, l'ambassade de France est immédiatement intervenue, l'a fait libérer. Et quand il est revenu en France, le haut fonctionnaire de défense du CNRS a instruit une procédure disciplinaire contre lui parce qu'il n'avait pas respecté à la lettre les demandes de mission qui sont complètement kafkaïennes. Donc il y avait une procédure disciplinaire et il avait fallu que nous mobilisions un conseiller du président Hollande à l'Élysée pour que le CNRS renonce à sa procédure disciplinaire.
Donc il indispose parfois les autorités, y compris d'ailleurs, on l'entend, à sa propre hiérarchie. Mais ce côté brut de décoffrage, c'est un peu une marque de fabrique chez lui.
Oui, Roland Marchal, c'est un homme sans concession et sans langue de bois. Il n'hésite pas à contredire les diplomates. Dans le journal La Croix, il accuse la France récemment d'avoir restauré au Mali un système inégalitaire qui permettrait aux djihadistes de recruter sans difficulté. Mais en 2015 déjà, il avait publié un rapport qui avait fait beaucoup de bruit sur la politique française au Tchad. Sa consœur, Marielle Debeau, s'en souvient encore.
Dans ce rapport, il trace à la fois l'histoire de la présence militaire française dans le pays. Il souligne les caractéristiques de cette présence française qui est très militarisée. Mais aussi, et c'est assez particulier de son travail, il donne des noms. Il nous dit qui au ministère de la Défense, qui au ministère des Affaires étrangères va soutenir Idriss Déby au Tchad. Pourquoi exactement dans les administrations françaises il y a ce soutien au régime d'Idriss Déby? C'est un rapport qui n'a pas été publié dans les plus grandes revues scientifiques, mais qui a été publié avec la société civile tchadienne en partenariat avec le CCFD en France.
Oui, ce rapport qui a fait du bruit, il ne lui a pas valu que des amis.
Effectivement, que ce soit l'ambassadrice de France au Tchad, mais aussi dans certains ministères, côté africain comme côté français, il semble qu'on ait très peu apprécié. Si l'on en croit encore Richard Banegas, il a eu comme un léger malaise avec le Quai d'Orsay.
Le rapport qu'il avait écrit sur justement la politique française au Tchad et dans la région lui a valu des critiques radicales de la part de la diplomatie française et de l'ambassade sur place. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, je le disais, dans les réseaux diplomatiques français au point que plus personne ne voulait le recevoir au Quai d'Orsay.
Oui, il l'indispose donc. Et en même temps, on l'a dit, c'est une référence, y compris d'ailleurs à l'ONU. Alors ça donc, c'est pour le portrait de Roland Marchal. Maintenant, il n'est pas seul dans cette affaire, Philippe, on le disait, il y a aussi une femme, son amie, une franco-iranienne qui s'appelle Fariba Adelka.
Oui, alors elle aussi est chercheuse, elle a 60 ans, elle a grandi dans une famille modeste et populaire de Téhéran, avant de venir étudier la sociologie en France dans les années 70 et d'obtenir la nationalité française au début des années 2000. Elle aussi travaille aux séries. Elle a publié plusieurs livres sur la femme iranienne où elle parle des codes religieux en famille, du port du voile notamment. Elle a aussi enquêté sur la radicalisation, mais elle est en fait très éclectique puisqu'elle a aussi traduit des poèmes français en farsi.
Et qu'est-ce qu'elle faisait en Iran en juin dernier?
Eh bien, elle enquêtait sur les liens qui existent entre les religieux iraniens et les talibans afghans. Écoutez Alain Dikoff, l'actuel directeur du centre de recherche pour lequel travaillent les deux scientifiques. Il nous précise ce qu'elle était allée faire là-bas.
Elle-même était en Iran pour des nouvelles recherches qu'elle avait entamées cette année.
Sur les religieux?
Des recherches, en effet, sur les réseaux religieux liant l'Afghanistan et l'Iran. Lui-même y était pour des motifs dans le fond de nature privée. Il ne faisait pas de recherche, il était simplement présent pour passer quelques jours avec elle. Voilà.
Oui, il est venu la rejoindre pendant ses jours de congé. Donc lui, il ne travaillait pas en Iran.
Non, il est simplement venu voir son ami. En fait, il était à Dubaï, pas très loin, en route pour Nairobi, au Kenya, où il devait présider une conférence. C'était alors les vacances de l'Aïd, la grande fête du sacrifice pour les musulmans. Il a donc décidé de la rejoindre pour quelques jours. Ils avaient prévu d'aller randonner dans le désert.
Ouais, ce devait être donc un moment de fête, sauf que tout va basculer lorsqu'il arrive à Téhéran.
Effectivement. Et au début, personne ne se rend compte de rien. Écoutez à ce sujet Jean-François Bayard. Il se dit rétrospectivement qu'il aurait dû se méfier d'un mail qui lui avait paru alors assez étrange.
Le 11, le 12 juin, je ne me souviens plus exactement, je reçois un email de Fariba dont j'aurais dû observer qu'il était curieusement rédigé. Dans cet email, Fariba m'expliquait qu'elle était dans le désert avec Roland et qu'elle n'avait pas de connexion Internet. J'aurais dû observer que la manière dont il était composé, par exemple des majuscules, l'objet, etc. Et là, il y a deux hypothèses. Soit Fariba Adelra l'a écrit sous contrainte, ou alors a été rédigé par un gardien de la Révolution francophone qui aurait pris connaissance d'emails que cette dernière m'a envoyé, qui se serait inspiré de ces emails pour le rédiger.
Donc ce qu'on voulait, c'était vous offrir une fausse piste, gagner du temps en fait.
Bon, je ne vois pas d'autre explication possible. C'est effectivement de nous rassurer pour gagner du temps.
Ouais, donc à ce moment-là, on peut supposer qu'ils ont déjà été arrêtés.
C'est ça, et peut-être même d'ailleurs à l'aéroport, dès l'arrivée de Roland Marshall à Téhéran.
Et ensuite ?
Eh bien ensuite, ils ont été incarcérés dans la prison d'Evin, de sinistre mémoire, dans les faubourgs de Téhéran. Sauf qu'à ce moment-là, personne ne s'en doute. Et il faut en fait attendre la fin juin pour que les choses s'accélèrent.
Le 23 juin, je reçois un coup de fil qui me dit « As-tu des nouvelles de Roland et de Fariba ? Nous n'avons aucune nouvelle de Roland alors qu'il doit présider un colloque le 26 juin au Syrie. » Donc le 25 juin, je préviens mes collègues qu'effectivement quelque chose s'est produit. Mes collègues préviennent le soir même le centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères qui saisit immédiatement le cabinet. Et le mercredi matin, avec un décalage qui explique l'heure tardive, je téléphone à l'ambassade d'Iran pour leur signaler la disparition de Roland Marshall et de Fariba Adelra.
Et donc, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, les autorités iraniennes vont finir par reconnaître qu'ils ont été arrêtés, comme nous l'explique encore Jean-François Bayard.
L'ambassade de France me rappelle, nous avons été en contact constamment, pour me dire que le gouvernement iranien confirmait l'arrestation de Roland Marshall. Les Iraniens n'ont parlé que de Roland Marshall, parce qu'ils ne veulent pas parler de Fariba Adelra, qui a la double nationalité, et l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité. Mais en tout état de cause, le gouvernement iranien avait laissé entendre que Fariba Adelra avait été arrêté.
Ouais, donc cette fois les choses sont claires, mais on les a arrêtés pour quel motif, Philippe ?
Alors officiellement, pour ce qui est de Fariba Adelka, on lui reproche dans un premier temps d'espionner et de faire de la propagande anti-régime. Cela ressemble beaucoup à ce qui s'était passé en 2009 lorsque l'universitaire française Clotilde Reiss avait été condamnée, puis finalement graciée après de longs mois d'incarcération.
Et à Roland Marshall, lui, on lui reproche quoi ?
Alors lui, il n'est pas soupçonné d'espionnage, mais simplement, si l'on peut dire, de menacer la sûreté nationale. Cela dit, il semble être plutôt une victime collatérale dans cette affaire. C'est en tout cas ce que pense une autre amie proche des scientifiques, Béatrice Hibou.
Il est la personne qui était au mauvais moment, au mauvais endroit, parce qu'il y a les tensions énormes entre l'Iran et les États-Unis, et on sait bien que cette politique d'otage est une politique assez généralisée. Donc, malheureusement, Roland est arrivé en Iran au mauvais moment, au moment de la crispation de ses relations.
Ouais, donc si je comprends bien, il serait une sorte de moyen de pression que se donneraient les Iraniens ?
Alors ça, c'est ce qu'on peut penser, même si c'est impossible à prouver. En tout cas, ce que relève leur patron Jean-François Bayard, c'est que les deux Français sont loin d'être les seuls dans ce cas-là. Emprisonner des scientifiques en Iran, ce serait selon lui une pratique assez courante.
La France est loin d'être la seule à avoir des ressortissants détenus, et notamment des ressortissants scientifiques, enfin des prisonniers scientifiques en Iran. C'est le cas des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de l'Australie, même je crois de la Suisse. Les Iraniens d'ailleurs disent que c'est la reconstitution d'une université dans les murs de la prison d'Evin, qui est en réalité une véritable petite université, parce que non seulement il y a les étrangers, mais il y a également, ne les oublions pas, les universitaires iraniens eux-mêmes. Donc à Evin, vous avez une véritable Sorbonne.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu qui sont Fariba Adelka et Roland Marchal et pourquoi officiellement, en tout cas, ils ont été incarcérés, on va s'arrêter quelques instants sur leurs conditions de détention, Philippe Reltien, parce qu'elles sont très rudimentaires.
Oui, alors retenez qu'ils sont séparés. Fariba Adelka est avec les prisonniers de droit commun dans la section des femmes, ce qui lui permet de recevoir de temps en temps la visite de sa sœur et de téléphoner à sa famille. En revanche, lui est maintenu au secret, dans la section réservée aux prisonniers politiques, qui est administrée par les gardiens de la Révolution, les durs du régime. Il est donc coupé du monde, en compagnie d'un seul prisonnier iranien anglophone. Son avocat le voit une à deux fois par mois, pas plus. Bref, il commence à trouver le temps très long, comme nous l'explique Bernard Ourcade, qui est directeur de recherche au CNRS.
Être enfermé, sans aucun contact extérieur, avec des gens qui ne parlent pas votre langue, et ceci pendant 6 mois... finit par poser des problèmes. Il tourne en rond, il ne parle pas persan, il est toujours dans la prison traditionnelle, donc au secret, il n'a pas le droit de téléphoner à qui il veut, et c'est extrêmement dur pour lui. Apparemment, il n'y a pas un maltraitement physique, si vous voulez, mais il a des problèmes d'arthrose, etc. Et au début, il avait de sérieux problèmes médicaux, ne pouvant pas marcher en particulier. Ça avait été un peu amélioré après la visite du consul de France à Téhéran, qui avait permis d'avoir accès à des médicaments et avoir un peu de droit de se promener dans la prison.
Il peut se promener un peu. En revanche, il est soumis à la censure. On lui a restreint la lecture.
Oui, il a voulu apprendre le persan pour communiquer avec ses gardiens. Mais on lui a confisqué le dictionnaire qu'il avait commandé. Et si l'on en croit Richard Banegas, il n'a pas reçu non plus tous les livres que ses amis lui ont envoyés depuis Paris.
On a pu, par le biais notamment des visites consulaires, avoir quelques échanges avec lui. Et au moins, il nous a fait part aussi de ses demandes. Donc il a fait en sorte qu'on puisse lui envoyer quelques livres. En fait, on lui en a envoyé beaucoup, mais peu lui sont parvenus, malheureusement. Donc,
Est-ce qu'il lit ?
Alors, écoutez, c'était des livres plutôt de sciences sociales qu'on lui a envoyés, de philosophie, mais aussi des romans. Avec Roland, on partageait aussi la passion des polars américains. Donc, on lui a envoyé quelques polars. Et là, il les a voulu en anglais. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, peut-être pour maintenir son niveau d'anglais.
Ouais, donc, leurs conditions de vie sont difficiles, on l'imagine. Mais à tel point, Philippe, que Fariba Adelka, elle, s'est mise en grève de la faim.
Oui, et par ce geste, elle a voulu dénoncer deux choses. D'abord, le fait qu'on lui interdise de voir Roland Marchal sous prétexte qu'ils ne sont pas mariés. Mais elle exige aussi la libération des autres prisonniers scientifiques. Le 24 décembre, donc, elle entame cette grève de la faim et un mois plus tard, on apprend qu'elle est mise sous perfusion. Elle est depuis devenue le fer de lance du combat pour la libération des prisonniers scientifiques en Iran.
Ouais, donc tout ça est plutôt préoccupant. Maintenant, faut aussi dire que dans ce contexte, il y a quand même, Philippe, il y a quand même eu récemment un signe positif.
Oui, puisque Téhéran a levé les accusations d'espionnage qui la visaient.
Ce qui signifie ?
Eh bien, que le procureur révolutionnaire a fini par admettre qu'elle n'était pas une espionne. Ce qui concrètement veut dire qu'elle n'est plus menacée de la peine de mort. Mais elle risque quand même 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Bon, mais alors la question qui se pose, Philippe, c'est comment est-ce qu'on en sort ? Quelles sont les hypothèses qui se dessinent ?
Eh bien, quand on discute avec les experts, l'hypothèse qui revient le plus souvent, c'est celle d'un échange entre l'un ou les deux chercheurs français et un ou des Iraniens détenus en France ou ailleurs en Europe. C'est ce que pense en tout cas Ardavan Amir Aslani, qui est un avocat d'affaires franco-iranien très en vue à Paris.
Les Iraniens sont capables de déployer un effort extraordinaire pour libérer les personnes qui leur sont chères. On l'a vu dernièrement avec la libération de ce scientifique iranien Soleimani, que Brian Hook, leur représentant spécial Iran aux affaires étrangères américaines, a mis dans son avion pour le ramener à Genève, enfin de l'échanger contre un ressortissant américain, le fameux étudiant de Princeton. Donc cette arrestation-là de ces deux chercheurs français peut être analysée comme étant effectivement la volonté de l'État iranien de disposer de monnaie d'échange pour obtenir la libération en France d'un de leurs propres ressortissants, proche du pouvoir.
Un de leurs ressortissants, mais qui en l'occurrence ? Alors, qui la France pourrait-elle proposer en échange ?
Alors, attention, il s'agit que d'une hypothèse à ce stade. Mais il y a actuellement un Iranien incarcéré en France. Il s'appelle Jalal Rolanejad. C'est un technicien dans le domaine spatial qui a été arrêté parce qu'on le soupçonnait d'avoir voulu violer l'embargo en important du matériel sensible en Iran. Il pourrait donc intéresser Téhéran. C'est en tout cas ce que soutient l'avocat.
C'est un ressortissant iranien qui s'est rendu en France il y a plusieurs mois, sur la Côte d'Azur, la ville de Nice, je pense, qui a été arrêté par les services français sur demande express des autorités américaines qui veulent son extradition vers les États-Unis. Les Français l'ont arrêté. Il y a eu une procédure judiciaire qui a été menée. L'affaire a abouti à une décision, à un arrêt d'appel qui effectivement autorise la France à l'extrader. Et le Premier ministre, à date d'aujourd'hui, malgré la décision de la Cour d'appel, n'a pas pris la décision de l'extrader. Alors si on devait effectivement suivre cette logique-là, c'était le moment idéal de disposer des monnaies d'échange pour effectivement empêcher l'extradition de ce ressortissant iranien en France en échange d'autres billes que les Iraniens, semble-t-il, se sont octroyées.
Oui, ce qu'il appelle des billes, ce serait donc les chercheurs français, hein, c'est ce que j'entends, qu'on pourrait échanger contre cet Iranien. Bon, cela dit, hein, on le rappelle, rien ne dit que cette hypothèse tienne la route.
Effectivement, on peut se poser la question. La justice française est-elle prête à jouer ce jeu-là, à se plier à la raison d'État? Ça, on n'en sait rien. Et on le sait d'autant moins que l'État est très discret sur ce dossier, comme le remarque encore le chercheur Bernard Ourcade.
La stratégie utilisée par le gouvernement français, par le président Macron dans l'affaire de nos amis Fariba et Roland, est tout à fait différente de ce qui s'est passé il y a 10 ans avec Loti de Reis, où l'affaire avait été politisée, prise avec beaucoup de spectacles par le président Sarkozy, etc. Aujourd'hui, au contraire, c'était la discrétion, c'était l'efficacité, et là, de ce point de vue-là, un changement important en France s'est passé avec l'arrivée comme conseiller diplomatique du président d'Emmanuel Bonne, qui était en poste à Riyad, qui était à Téhéran, qui était ambassadeur à Beyrouth, qui connaît très bien la région. Et il sait très bien que pour négocier, pour discuter avec les Iraniens notamment, il faut boire du thé, prendre son temps et voir les susceptibilités qu'il y a, les difficultés de communication qu'il y a. Et là, apparemment, le travail est assez bien fait.
Et preuve de cette discrétion et de cette nouvelle façon de gérer la crise, personne n'a souhaité s'exprimer sur le sujet au ministère des Affaires étrangères.
Oui, il semble d'autant plus nécessaire d'agir avec prudence que le contexte géopolitique s'est sérieusement dégradé ces derniers temps.
Ah oui, c'est peu de le dire. Il y a eu en 2018 le retrait américain de l'accord international de compromis sur le nucléaire, ensuite plus récemment l'assassinat du général Soleimani, puis l'avion ukrainien abattu, le tout dans un climat de manifestation contre la vie chère là-bas. Bref, comme le rappelle l'experte Fabienne Ara, qui a travaillé avec Roland Marshall, le contexte récent a compliqué la donne.
Il y a la situation personnelle du président Trump qui veut quand même se représenter aux élections américaines en novembre 2020 et qui a besoin de cette polarisation et de la création d'images d'ennemis pour pouvoir montrer qu'il est dur, qu'il est fort, etc. Et il y a contestation en Iran avec toutes les manifestations qu'on a vues aussi, et donc des tensions entre les différentes lignes politiques aussi. On est dans une situation de danger et on ne sait pas dans quel sens ça peut influer sur la situation des prisonniers scientifiques.
Donc elle pense que le contexte pourrait jouer, pour ou contre eux d'ailleurs, mais tout le monde ne partage pas cette analyse.
Eh bien non, en tout cas, il y a matière à débat. Écoutez aussi l'avis de cet autre très bon connaisseur des terrains de crise, l'humanitaire de MSF, Ronnie Broman, qui lui aussi connaît Roland Marshall. Il est convaincu que l'Iran joue avec le feu, mais ne franchira jamais la ligne rouge.
En dépit de l'apparence de radicalité, de dureté qu'a prise le régime du fait de son contrôle par les ayatollahs, le pragmatisme, le sens du compromis, le sens de la position extrême à laquelle vers laquelle on peut tendre mais qu'il ne faut pas rejoindre, domine, pour le dire de façon brève. Les Iraniens savent jusqu'où ne pas aller trop loin.
Oui, ne pas aller trop loin, c'est aller où, Philippe? Ou pour faire simple, comment ça peut se résoudre?
Eh bien, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ronnie Broman, lui aussi, pense que la crise peut se résoudre par un échange.
Je suis absolument convaincu, parce que c'est le cas de façon systématique, qu'il y a nécessairement une transaction cachée derrière, ou un objectif de transaction. Les Iraniens ne peuvent pas avoir fait ça de façon totalement gratuite. Ils cherchent quelque chose, je ne sais pas quoi, mais c'est aujourd'hui probablement Fariba Adelka qui en fera les frais en premier. Roland Marshall, en tant que pièce rapportée, en fait également les frais.
Donc lui serait libéré plus facilement qu'elle, c'est ce que vous nous dites?
C'est ce que l'on peut supposer, compte tenu du statut différent qui est le leur en Iran aujourd'hui.
Ouais, c'est ce que l'on peut supposer, mais évidemment on ne peut rien affirmer.
Non Jacques, parce que personne ne peut lire dans le marc de café. L'Iran, c'est une boîte noire, disent les experts. Beaucoup veulent croire que les deux chercheurs français seront libérés, peut-être le 11 février, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique, qui s'accompagne toujours de mesures de clémence. Mais il faut rester très prudent. Seront-ils libérés? quand, à quelles conditions ? À ça, il est encore impossible de répondre.
Bien, merci Philippe Reltien. Alors je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez nous y laisser aussi vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. Mais surtout restez avec nous, isoler ses combles pour 1 euro, ça semble très intéressant. Mais on va voir dans quelques instants que ça peut aussi déboucher sur des catastrophes. Cafe, shed a kiss in pouring rain. We got married in a gold rush, and the sight of gold will always bring me pain. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby? Girl, you don't know by now. On the midnight train, the gold won't weigh us down. Hanging gardens turned to desert. All that loving turned to hate. We got married in a gold rush, and those wedding bells were ringing out our fate. Say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby? Girl, if you don't know by now, there's 2 seats on the midnight train. The gold won't weigh us down. The rush is on to somewhere else. We're running out of time. Everything was ours, now it's just an empty mind. Animals don't understand the words on the danger sign. For them it's just some shade from the morning shine. I thought you might learn the language. I thought you might learn to sing. We were born before the gold rush, so why can't I remember anything? I wanna put things back together. I wanna give, don't wanna take. Time to disavow the gold rush and the bitterness that's flourished in its wake. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. Please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. C'est léger, c'est rafraîchissant, c'était Married in a Gold Rush, extrait du dernier album de Vampire Weekend, avec exceptionnellement sur ce titre la chanteuse américaine Danielle Haïm.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Elvire Beraïa-Lazarus, bonjour.
Bonjour.
Avec la société de production Cat et Compagnie, vous avez réalisé un documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine dans Envoyé spécial sur France 2 et qui est consacré à l'isolation des combles à 1 euro. Alors on va peut-être d'abord rappeler ce que c'est que cette isolation des combles à 1 euro, de quoi il s'agit et qui peut y prétendre.
Eh bien, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État et tout le monde peut y prétendre, il y a des critères de revenus. On peut être locataire, il faut l'accord du propriétaire, mais les locataires peuvent aussi faire isoler les combles de leur maison.
Alors, vous vous êtes mis dans la peau d'un propriétaire, justement, qui a une maison et vous avez testé ce système. Et là, vous avez eu quelques déconvenus. Alors, racontez-nous comment vous avez réussi à identifier les malfaçons éventuelles.
Oui, alors, on a emprunté une maison de 100 mètres carrés. Et puis, moi, je me suis inscrite sur plusieurs sites internet qui proposent l'isolation à 1 euro. J'ai tout de suite été rappelée très très vite, au bout d'un quart d'heure.
Des sites, pardon, mais des sites dont on peut se demander d'ailleurs s'ils sont tout à fait honnêtes, parce que certains se prévalent de Nicolas Hulot, enfin d'un certain nombre de personnalités.
Oui, il y a de temps en temps des photos sur ces sites de Nicolas Hulot, de Monsieur de Rugy, voilà. Le problème, c'est que ces entreprises, certaines sont mal intentionnées et en fait font mal les travaux.
Alors racontez-nous ce qui s'est passé avec votre maison. Donc vous contactez des entreprises, elles viennent. Et alors là, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, une première entreprise arrive et établit un diagnostic vraiment très 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 rapide. Il se trouve que la maison qu'on a empruntée, on l'a pas fait exprès, mais il y a plein de choses à remarquer dans les combles. Il y a de l'humidité qui provient du toit et qu'il faudrait régler avant de l'isoler, ou bien très vite après avoir fait l'isolation. Il y a une hotte de cheminée dont le tuyau débouche dans les combles et qu'il faudrait protéger.
Et il y a un boîtier électrique.
Voilà, des boîtiers électriques comme souvent dans les combles qu'il faut repérer en tout cas pour éventuellement faire des interventions ultérieures. Donc il y a plein de choses à remarquer dans ces combles. Or les ouvriers qui arrivent, ils sont moldaves, ils sont pas très bien formés, a priori ils sont exploités et ils font des centaines de kilomètres dans la journée allant de chantier en chantier et on sent bien qu'il faut qu'ils aillent vite. Ils montent dans les combles directement, ils regardent très succinctement et ils redescendent en me disant bon voilà, on a fait le métrage.
Ça prend 1 à 2 minutes.
Oui. Alors normalement, ce qui devrait faire...
Il faut préciser que vous avez mis une caméra dans les combles, donc vous les voyez faire, vous voyez bien ce qui se passe.
Oui, on a caché une caméra dans les combles. On voit qu'ils font vraiment pas le tour des combles, ils ne voient pas la hotte de la cuisine parce qu'elle est cachée par le conduit de cheminée. Donc comme ils font pas le tour, ils ne la voient pas. Ils mesurent très vite, mais ils se rendent pas compte qu'il y a aussi un mur porteur dans les combles qui sépare les combles en deux parties. Donc ils mesurent en fait 50 mètres carrés, alors que j'ai précisé que la maison faisait 100 mètres carrés, et ils ratent une partie des combles.
Donc ils isolent que la moitié de la maison, en fait.
C'est ça le problème. Voilà. Donc la première entreprise, il fait un diagnostic très vite. Et puis moi, je n'ai pas vu de devis, je n'ai rien vu, donc je m'inquiète. Je demande à voir des papiers d'abord. Et ce qui est surprenant, c'est que l'entreprise qui est venue n'est pas celle que j'avais contactée.
C'est pas le même nom.
C'est pas le même nom. Moi, je ne suis pas rassurée, donc je leur demande de partir. Et c'est une deuxième entreprise, un peu sur le même mode, c'est-à-dire un diagnostic aussi très rapide.
Bah pareil, ils arrivent, ils font ça en 2 minutes, ils sortent leur matériel, ils balancent leur flocon de laine de roche.
Exactement. Et donc, c'est très mal réalisé.
Ouais. Alors, eux, ils viennent de Roumanie, les deuxièmes.
Oui,
ce qui montre bien qu'en fait, on a affaire à des quasi-standards téléphoniques qui recrutent de la main-d'œuvre à bas coût, qui leur font faire des fois jusqu'à 600 km par jour, plusieurs chantiers, payer quoi, une centaine d'euros par
jour.
Voilà,
entre 100 et 150 euros par jour. Et malheureusement, ces gens-là sont très gentils, mais ils sont pas formés. Et en plus, ils sont mal équipés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de masques de protection. C'est mauvais pour la santé.
Un masque pour 3 alors qu'on manipule de la laine de roche.
Oui, il se ruine la santé. Et en fait, ça peut être aussi dangereux. Hein, on voit dans le reportage qu'il y a une famille dont la maison a pris feu suite à une isolation à 1 euro, car les ouvriers ont projeté de la laine de verre, de la laine de roche, enfin des flocons, contre le conduit de cheminée. Et ça a créé une surchauffe, ça a embrasé la charpente. Ils ont réussi à maîtriser l'incendie, mais ça aurait pu être très grave. Et l'expert en incendie, qui est venu ensuite, a vraiment constaté que c'était à cause de l'isolant qui avait été mis au mauvais endroit 15 jours auparavant.
Alors parlons de ces 1 euro, parce que ça coûte 1 euro peut-être au propriétaire ou au locataire, mais ça coûte pas 1 euro, ça coûte beaucoup plus que ça, et ce sont d'autres acteurs qui payent derrière. Alors qui sont ces acteurs?
Eh bien, c'est nous tous qui payons ce dispositif. En fait, c'est un dispositif qui a été créé en 2005 par l'État, pour obliger les grands pollueurs, les distributeurs d'énergie, comme Total, EDF, Butagaz, à financer des travaux d'économie d'énergie. Mais ces entreprises les répercutent.
Donc ce sont eux qui payent les factures de nos chantiers pour lesquels on paye 1 seul euro.
Voilà. En fait,
c'est Total qui paye pour mon isolation.
Exactement. Hein. L'artisan voit sa facture à Total. Total rembourse l'artisan et ensuite envoie la facture à l'État qui, en échange, lui donne des certificats d'économie d'énergie.
C'est un système de compensation. Je suis un pollueur, donc je compense ma pollution en finançant des travaux qui permettront de réduire les gaz à effet de serre. Hein. Voilà. Sinon, je paye des pénalités. Donc, j'ai intérêt finalement à financer ces chantiers.
Oui, j'ai un quota. toutes les entreprises ont un quota qui est annexé sur leur vente d'un certain nombre de travaux à réaliser.
Donc on peut dire c'est super, les pollueurs payent, moi ça me coûte qu'un euro, sauf que c'est pas si simple.
Non, puisque finalement ils répercutent le prix. Quelques centimes d'euros à la pompe, c'est environ 4% de votre facture d'électricité qui finance ces travaux.
Est-ce que tout ça va bouger? Est-ce qu'il y a un moment où l'État va se dire non, c'est plus possible, on peut pas laisser un système qui est certes vertueux à la base, mais qui débouche sur autant de dérives?
Bien, pour l'instant, l'État dit qu'il va réagir, qu'il va mettre en place des contrôles. Pour l'instant, les contrôles, comment dire, étaient programmés jusqu'ici. Vous pouviez dire, voilà, venez me contrôler sur tel chantier. Là, ils vont demander la liste de tous les chantiers et en choisir un au hasard. Voilà, c'est censé être mis en place bientôt. Mais par rapport au nombre de chantiers, là, on est à 50 000 chantiers par mois environ. Ça va être très compliqué de faire ce type de contrôle. Le pôle national des certificats d'économie d'énergie vient juste d'avoir un budget pour faire des contrôles. Ils ont lancé 3000 contrôles. 3000 sur 1 million de travaux par an qui concernent les certificats d'économie d'énergie en entier. Parce qu'évidemment, ouais. Ce dispositif, ça concerne pas que les combles. Hein,
Donc la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est d'appeler les gens à la vigilance. Vérifiez bien que vous avez affaire à une entreprise sérieuse. Surveillez les travaux. Enfin, on peut pas installer des caméras sous les combles comme vous le faites, mais c'est un peu ça qu'il faudrait faire.
Oui, ce qu'on peut dire aux gens, c'est qu'il faut surtout essayer de contacter des entreprises locales qui ont pignon sur rue près de chez vous. Et bien s'assurer qu'elles viennent d'abord faire un diagnostic de votre maison avant de réaliser les travaux.
Un diagnostic sérieux.
Voilà.
Bien, merci Elvire Berraillet à Lazarus. Alors je rappelle que votre documentaire donc sera diffusé sur Envoyé spécial jeudi prochain sur France 2. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Sonia Leglen. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Johanna Gabric et Alix Barrois. Dans quelques instants, Emmanuel Kérad, lui, va vous proposer une librairie francophone spéciale BD à l'occasion d'Angoulême et de l'année de la BD. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.